Vous écoutez
RMC.
Jean-Luc, l'essai de la semaine maintenant. Et c'est l'Opel Corsa i, la première Corsa full électrique.
Full électrique est la cousine de la 208 électrique. Bon, évidemment, il n'y a pas de mystère, hein, c'est la même plateforme, c'est la même mécanique. Pourquoi ? Bah, parce que Opel appartient désormais à PSA déjà depuis un petit moment. Donc, c'est la petite sœur, c'est une version électrique, alors qui ressemble en tout point à la version thermique. Hein. Pour la différencier, vous avez les roues qui sont différentes et le logo. Et c'est tout. Donc, parce que Opel a fait le même choix que Peugeot, c'est-à-dire vous choisissez une 208, comme vous choisissez une Corsa, et ensuite vous choisissez la motorisation, c'est la même voiture. C'est pas parce qu'on prend une électrique qu'elle va être différente de la version thermique.
Oui, c'est une motorisation différente.
C'est une motorisation qui est proposée comme les autres motorisations. Voilà. Présentation intérieure, finition identique au thermique, un peu moins raffinée que sur la Peugeot, on comprendra plus tard. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du tarif, c'est aussi un peu moins raffiné. La planche de bord, alors, design plus simple. C'est vrai que on passe dans la 208 du truc le plus moderne actuellement, hein, avec oui. l'affichage en 3D et tout. Oui, oui. Là, bon, on passe à un... on n'a pas de e-cockpit, on a un affichage standard, un volant de grand diamètre alors qu'on a un petit volant dans l'autre. Donc ça fait nettement moins high-tech, mais c'est quand même efficace parce que l'ergonomie est bonne. Et puis surtout, la finition est richement dotée dès le modèle de base quand même. Vous avez le freinage d'urgence, le maintien dans la voie, bon j'aime pas trop ça, le régulateur limiteur de vitesse, la lecture des panneaux, le détecteur de sous-gonflage, etc., etc., etc.
Des options qu'il y a sur la 208,
alors,
d'accord.
Pas de
pas,
base.
Pas au niveau de finition.
Voilà, exactement, exactement. Alors, c'est la même plateforme technique, on l'a dit, que la 208, qui est déjà une voiture, on en a déjà parlé en essai, qui était très agréable. Et là, bah, évidemment, hein, vu que c'est à peu près la même voiture avec une carrosserie différente, évidemment, c'est très bien. On est séduit en premier lieu par le silence et par la douceur de fonctionnement. Les performances sont suffisantes. C'est pas l'électrique la plus performante du marché, mais ça suffit. Alors, on a, en fonction du mode de conduite, on a trois niveaux de couple et de puissance. Hein. Ça va de 100 kW et 260 Nm de couple en mode sport. On s'en sert pas souvent, en fait. Hein. Ça passe de 0 à 100 en 8 secondes une, c'est-à-dire que c'est mieux que les 205 GTI de la grande époque, enfin mieux que les GTI de la grande époque. Après, vous avez un mode normal où on est à 80 kW et 220 Nm, et puis ensuite un mode éco où vous êtes à 60 kW, 180 Nm. Ça limite le couple et la puissance pour évidemment préserver l'autonomie. Alors, l'autonomie, Opel annonce 337 km. On est vraiment dans les chiffres, hein, de la 208 selon la nouvelle norme WLTP, avec une consommation annoncée de 17 kWh au 100 km. Il y a des modèles qui font mieux. Les nouvelles Volkswagen font mieux en matière de consommation, un rendement énergétique qui a priori est un petit peu meilleur. Alors, vous allez me dire, bon ok, ils annoncent 337 km. Combien on fait dans la vraie vie ?
Et voilà, c'est ça.
Voilà.
Vous l'avez testée où, cette voiture ?
Dans la grande banlieue parisienne. Donc j'ai fait un petit peu de ville, j'ai fait de l'autoroute, j'ai fait de la route.
D'accord.
Pour essayer d'avoir des parcours un peu variés. On fait entre 300 km quand on est plutôt à l'heure rapide, donc on va dire sur la voie rapide. Alors pas de l'autoroute, hein. À 130 on aura encore un peu moins d'autonomie. Mais en allure rapide à 300 km et 400 km en ville, bon,
c'est pas mal,
c'est suffisamment, voilà. D'autant que on a une option en plus qui permet d'avoir un chargeur un peu plus puissant. On a jusqu'à 11 kW de chargeur optionnel, c'est une option à 730 € qui permet, si on fait beaucoup de kilomètres, de recharger suffisamment vite. Et on a de toute façon de la charge rapide jusqu'à 100 kW si on trouve une borne de recharge ultra rapide là, qui permet de récupérer 80% de l'autonomie en une demi-heure. Côté comportement, on l'a dit tout à l'heure, on revient au même truc, c'est une 208, hein, avec une carrosserie différente. Alors je la trouve peut-être même un tout petit peu plus confortable que la 208. C'est étonnant. Alors est-ce que c'est une fausse idée que je me fais, mais j'ai trouvé
alors
plutôt...
peut-être ont-ils amélioré le confort entre temps, parce
je
que
sais
la,
pas,
non,
peut-être
la 208
que c'est
est sortie l'année dernière.
Peut-être que c'est les réglages de suspension qui sont pas exactement les mêmes entre la Peugeot et puis l'Opel. Elle garde un comportement qui est extrêmement sécurisant et je la trouve aussi confortablement amortie que les modèles thermiques. Ce qui n'est pas tout à fait le cas sur la 208, qui est un peu plus ferme en modèle électrique. Bon, alors, le gros avantage, on l'a dit au tout début, c'est que elle est un peu moins raffinée que la Peugeot, mais par contre, elle est moins chère. Ah. Il y a environ 2000 euros d'écart, c'est quand même pas rien.
Ah ouais, c'est pas
avec
rien.
Avec la i208.
Alors qu'elle est mieux équipée, c'est ce que vous disiez.
Qu'elle est... elle est pas mieux équipée quand on monte dans les finitions. Elle est mieux équipée, certes, Mais
si alors, on prend l'entrée de gamme.
Si on prend l'entrée de gamme, bah 2000 euros moins cher avec un équipement qui est un tout petit peu mieux.
Voilà.
Donc en fait, c'est même un peu plus de 2000 euros.
Sur les deux tableaux.
Voilà. C'est ça. Donc ça démarre à 30 650 euros. Alors c'est 32 700 euros hein, pour la 208. Et moi, le modèle que j'avais en essai, qui est une finition élégance, est aux alentours de 35 000 euros. De tout ça, n'oubliez pas que vous pouvez déduire 6 000 euros de bonus écologique et vous pouvez avoir encore d'autres aides. Donc c'est un véhicule qui va, dans tous les cas, être entre 25 et 30 000 euros une fois que vous aurez déduit les bonus, qui est une excellente voiture. Hein. Une excellente voiture. Je pense que dans la gamme Corsa, c'est la plus sympa.
Voilà. Et bon, les Mimi quoi.
Bon, les Mimi, c'est peut-être moins de caractère, alors dedans et dehors, qu'une 208. Mais il y a des gens qui n'aiment pas philosophie Peugeot très high-tech à l'intérieur avec le petit volant, et dedans, qui n'aiment pas ça.
Donc on se retrouve avec
quelque chose de plus traditionnel.
Exactement.
Mais sans renoncer au confort et aux performances, et bien c'est un bon choix.
Voilà, cette Corsa I-Corsa. La Corsa I, exactement.
Corsa I, ouais. C'est la I-208 et la Corsa I. La Corsa I.
Jean-Luc, il nous reste une minute.
Ouais.
L'actu de la semaine dans le monde de l'automobile avec le top 15 des marques automobiles les mieux valorisées dans le monde. Eh bien, vous savez quoi ? Aucun constructeur français n'y figure.
Eh ouais, le groupe
américain. C'est un signe, hein, quand même. Hein.
Ouais, ouais. Le groupe américain de conseil sur les marques, qui s'appelle Interbrand, vient de publier. Alors, c'est une étude annuelle sur la valeur des marques. C'est toutes les marques. C'est pas que l'automobile, avec notamment une attention toute particulière aux constructeurs auto. C'est baptisé Best Global Brands. Cette étude établit le classement des 100 marques les plus puissantes du monde à la suite d'une évaluation complète de leurs résultats financiers, mais aussi de leur pouvoir d'influence sur le choix du consommateur et leur faculté à maintenir leur prix. On le sait tous, l'année 2020 est un peu spéciale quand même, hein, Covid oblige. Le coronavirus a nui à la valorisation du secteur automobile, selon ce classement mondial, par rapport à d'autres secteurs, hein, comme on dira la high-tech par exemple. Alors, seul Hyundai voit sa valorisation progresser à 14,3 milliards de dollars. La marque coréenne, classée 36e, fait son entrée dans le top 100 en 2005, dans le top 100 en 2005 pour ne jamais le quitter. Tesla et son patron Elon Musk font leur retour dans le classement à la 40e place après l'avoir quitté en 2017. Trois autres marques automobiles leaders conservent leur position dans le classement. Toyota est à la 7e place, Mercedes-Benz à la 8e, BMW à la 11e. Étonnamment, l'autre marque du groupe Hyundai, Kia, ne se classe que 13e marque automobile, valorisée à seulement 5,8 milliards de dollars. Sur les 15 marques automobiles présentes dans ce classement, dans ce top 100, aucune marque française ne figure, en raison de leur absence du marché américain, qui fait s'effondrer leur valeur de marque. De grandes marques américaines comme Jeep ou Chevrolet, insuffisamment présentes dans le reste du monde, sont également absentes du classement. Comme quoi, on peut des fois penser que les marques auto sont très connues dans le monde, pas forcément.
Ah ben non, c'est clair.